Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de notre programme. Nous vous ferons part de l'essentiel des activités du Saint-Père au cours de la semaine, avant d'évoquer le décès de l'abbé burkinabé Rodrigue Sano du diocèse des Bandfora, disparu le 19 janvier dernier. L'actualité sociopolitique, quant à elle, nous conduira en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, en Libye notamment. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous, et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Ouvrons notre édition avec la semaine du pape que nous présente Camille Moukoso.
Le pape a reçu samedi en audience privée le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques. Il a été rendu public samedi le message du pape à l'occasion de la 55e journée de communication sociale qui sera célébrée au mois de mai prochain. Dans son message, le Saint-Père souligne la nécessité de sortir de la présomption commode des déjà savoir et de se mettre en marche, aller voir, être avec les personnes, les écouter, recueillir les suggestions de la réalité qui nous surprendra toujours par l'un ou l'autre de ces aspects. François a consacré son message de cette année à l'appel à venir et à voir comme proposition pour toute communication qui se veut limpide et honnête. Le défi qui nous attend, affirme le pape, est celui de communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont. Jeudi, le Saint-Père avait adressé un télégramme de condoléances à l'archevêque de Madrid en Espagne, télégramme signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin pour la grave explosion à Madrid. Mercredi, à l'occasion de l'investiture du nouveau président américain Joe Biden, le pape lui a adressé un télégramme pour exprimer ses vœux cordiaux et l'assurance de ses prières, afin que le Dieu Tout-Puissant lui accorde la sagesse et la force dans l'exercice de sa haute fonction. Toujours mercredi, le pape avait tenu son audience générale depuis la bibliothèque du Palais Apostolique, orientant sa catéchèse sur la prière pour l'unité des chrétiens. Pour vérifier quel esprit nous anime, le Saint-Père a invité à nous demander si dans les lieux dans lesquels nous vivons, nous alimentons la conflictualité ou si nous luttons pour faire grandir l'unité avec les instruments que Dieu nous a donnés, la prière et l'amour. Mardi, le Saint-Père avait adressé un message vidéo aux évêques ainsi qu'aux clergés diocésains et religieux du Venezuela, message intervenu avant une réunion virtuelle de ces derniers. C'est l'occasion de partager dans un esprit de fraternité ministérielle vos expériences sacerdotales, vos travaux, vos incertitudes, ainsi que vos aspirations et votre conviction de poursuivre l'œuvre de l'Église qui est l'œuvre du Seigneur, a déclaré le pape. Le pape a préfacé les livres de Maria Bonanate intitulés Io sono Joy, Je suis Joy, qui relate le témoignage intense d'une jeune fille nigériane qui arrive en Italie après un voyage dramatique avec l'illusion de trouver un emploi mais qui se trouve dans la rue.
L'actualité de l'Église nous conduit à présent au Burkina Faso où le diocèse de Bandfora vient de perdre un membre de son clergé, le père Rodrigue Sanon, curé de la paroisse de Soubaganyédougou, disparu le 19 janvier. Le corps sans vie du père Sanon a été retrouvé le 21 janvier dans la forêt de Toumousseni, à une vingtaine de kilomètres de Bandfora. Dans l'attente de nouvelles informations sur les circonstances de sa mort, Monseigneur Lucas Kalfasanou, évêque de Bandfora, a invité les fidèles à prier intensément pour son âme et à demeurer confiant dans l'amour miséricordieux du Seigneur. Quelques détails avec notre correspondant sur place.
Le corps sans vie de l'abbé Rodrigue Sano, disparu deux jours plus tôt, a été retrouvé ce jeudi 21 janvier 2021 dans la forêt classée de Toumousseni, indique un communiqué de Mgr Lucas Sano, évêque de Bandfora. Toumousseni se trouve à une vingtaine de kilomètres de Bandfora, faisant frontière avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans un autre communiqué, Mgr Lucas précise que dans la foi et l'espérance, les obsèques de l'abbé Rodrigue se dérouleront comme suit. Vendredi 22 janvier, à 20h, une veillée de prière est prévue pour le défunt à la paroisse cathédrale Saint-Pierre de Bandfora. Le samedi 23 matin à 7h, la levée du corps au centre hospitalier régional de Bandfora. Une exposition en sera faite à l'église cathédrale à 7h15. C'est là aussi que se célébrera la messe de requiem suivie de l'enterrement au cimetière municipal de Bandfora selon les termes du communiqué. Paul Dawagadougou pour Radio Vatican.
En Éthiopie, une délégation composée de représentants de la Conférence épiscopale éthiopienne et des Catholic Relief Service des États-Unis a rendu visite de solidarité dans l'éparchie catholique d'Adriga pour faire le point sur les besoins les plus urgents de la population civile avec l'ordinaire local Monseigneur Tesfacilassie Medine et coordonner l'aide de l'Église avec le gouvernement intérimaire installé après la défaite des forces rebelles. La délégation qui comprenait le secrétaire général de la Conférence épiscopale éthiopienne, le père Tesom Fikwoldetensai, les directeurs exécutifs de la Commission pour le développement social de l'Église éthiopienne et trois représentants de la Catholic Relief Service a distribué une aide alimentaire aux personnes déplacées dans les zones urbaines et rurales. La délégation a également discuté de la contribution et du rôle de l'Église catholique éthiopienne et de ses partenaires pour la reconstruction dans diverses interventions dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'alimentation et des migrants, y compris des nombreux réfugiés de l'Érythrée voisine. Quel est l'état de l'apostolat biblique en Afrique? Cette question a été répondue par la conférence en ligne organisée le 20 janvier par la Fédération biblique catholique et par les centres bibliques catholiques de l'Afrique et du Madagascar dirigés par le père Albert Ngengi Mundele. Pendant les travaux, les participants se sont concentrés en particulier sur les traductions de la Bible dans les langues africaines locales rendues difficiles par le manque de fonds et des structures adéquates et sur la nécessité d'une plus grande oralité dans la proclamation de la parole des dieux. Le père Xené Sanchez, directeur de Verbum Bible, une maison d'édition de livres religieux dirigée par les missionnaires en République démocratique du Congo a donné des exemples de ce pourquoi l'Afrique est connue, à savoir son amour particulier pour la parole des dieux. L'Afrique est le premier continent avec le plus grand nombre de traductions de la Bible, a expliqué le père Sanchez. Les statistiques indiquent également, a poursuivi le missionnaire Verbite, que les Africains sont en deuxième position derrière les Latino-Américains pour l'achat de la Bible, un fait qui, dans le contexte des difficultés financières dans lesquelles vit la population locale, représente un grand témoignage de l'amour qu'il a pour les Saintes Écritures.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Six personnes ont été secourues vendredi soir au large de la Libye par l'océan Viking. Le navire de secours en mer SOS Méditerranée portant à 374 le nombre de rescapés récupérés en 48 heures par l'ONG basée à Marseille. Les responsables de cette ONG ont indiqué que la plupart des personnes à bord du canot pneumatique avaient été retrouvés très intoxiqués par des vapeurs de carburant. Les rescapés sont originaires des Guinées, du Soudan et de la Sierra Leone, selon la même source. Les représentants parlementaires des camps rivaux libyens ont ouvert vendredi au Maroc un nouveau round des pourparlers participant au processus en cours pour sortir le pays du chaos. Selon le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, ce nouveau round sera comme les précédents organisés au Maroc depuis septembre, consacré aux postes de souveraineté tels que ceux de la commission électorale, de la banque centrale ou de la commission anticorruption. En République démocratique du Congo, les députés de l'Union sacrée voulue depuis décembre par le président Félix Tshisekedi ont déposé vendredi soir au bureau provisoire de l'Assemblée nationale la motion de censure contre le gouvernement et le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, une motion signée par 301 députés sur un total de 500. Le premier ministre Ilunkamba est invité à se présenter mardi 26 janvier à 13h devant la séance plénière de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, vendredi, les députés congolais ont adopté le projet de loi sur l'adhésion de leur pays à la zone économique de libre-échange en Afrique. Le texte a été adopté par 330 voix. 8 députés ont voté contre et 2 se sont abstenus. Ce vote a été fait en l'absence des députés membres du Front commun pour le Congo, partisans de l'ex-président Joseph Kabila, opposés au projet de loi. Ils craignent en outre de voir leur pays envahi par les voisins, surtout dans la partie orientale du pays, avec la concurrence du Rwanda et de l'Ouganda. Lors de l'échange de vœux vendredi avec le corps diplomatique, le président Tshisekedi a indiqué dans son discours qu'il était chaque jour réconforté par l'adhésion massive de la classe politique à l'union sacrée de la nation qu'il a initiée pour maximiser les chances pour poursuivre le processus de démocratisation et du développement de son pays. Un journaliste ayant travaillé pour la télévision officielle tigréenne Tigray TV a été abattu à Mekele, capitale de cette région du nord de l'Éthiopie, théâtre d'un récent conflit armé avec le pouvoir fédéral. Le corps de Dawit Kebede Araya a été découvert mercredi matin dans sa voiture, garée à 100 mètres de chez lui, aux côtés de celui d'un ami, Bereket Bere, un homme d'affaires. Cet assassinat semble démentir le retour à la normale au Tigré dont fait état le gouvernement fédéral depuis qu'il en a délogé fin novembre après un mois de combat des autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, et l'Union européenne, premier importateur du cacao ivoirien, ont annoncé vendredi vouloir s'engager ensemble pour un cacao durable alors que la tension est montée fin 2020 entre les géants du chocolat et les producteurs. Il y a une convergence de vues mutuelles et d'intérêts mutuels entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne sur la durabilité nécessaire de la filière cacao, a déclaré Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence ivoirienne. Nous voulons la même chose, s'est félicité de son côté l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobs von Kirschmann. Cette convergence de vues entre les actions menées par la Côte d'Ivoire d'une part et les politiques que souhaite mettre en place l'Union européenne d'autre part est à l'origine du cadre de dialogue selon M. Hachi.
Radio Vatican, France-Afrique, Donatien Niembo.
Des représentants parlementaires de camps rivaux en Libye ont ouvert vendredi au Maroc un nouveau round de pourparlers participant au processus en cours pour sortir le pays du chaos. La réunion consultative organisée à Bouznika, une station balnéaire située au sud de Rabat, réunit avec un format 13+13 des représentants du Parlement basé à Tobrouk, dans l'est du pays, et du Haut Conseil d'État basé à Tripoli. Selon le gouvernement d'Union nationale, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, ce nouveau round sera comme le précédent organisé au Maroc depuis septembre, consacré aux postes de souveraineté tels que ceux de la commission électorale, de la banque centrale ou de la commission anticorruption. Le père jésuite Eric Cambalé nous introduit à la méditation dominicale de la troisième semaine du temps ordinaire de l'année B.
Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, le dimanche de la parole de Dieu, les lectures proposées à notre méditation nous invitent à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ces paroles de Jésus, tirées de l'évangile selon saint Marc, s'adressent à nous aujourd'hui. Laissons-les nous accompagner au quotidien, car chaque jour nous avons besoin de nous convertir afin de nous rapprocher de Dieu, de sa sainteté à laquelle il nous appelle tous. Oui, convertissons-nous et croyons à la bonne nouvelle. Cet appel requiert de nous des attitudes concrètes. Reconnaître avant tout de quoi le Seigneur me demande de me détourner, de me convertir. Quel chemin je suis invité à abandonner en vue d'emprunter le vrai chemin qu'est le Christ lui-même. La suite de l'Évangile nous présente le modèle d'une adhésion totale et inconditionnelle au Christ. En effet, les apôtres répondent sans aucune hésitation à l'appel de Jésus, laissant soudainement ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient de plus cher. Ils suivent le Christ. Puissions-nous également apprendre de leur promptitude à suivre le Christ? Comment ne pas laisser les réalités de la vie, de quelle sorte qu'elle soit, reporter notre cheminement avec le Christ au lendemain. Demandons au Seigneur la grâce de savoir répondre promptement aux appels qu'il nous lance dans nos milieux de vie et par-dessus tout, son appel à aimer et à faire le bien sans attendre demain, car demain pourrait être trop tard. C'est de cette même promptitude que les habitants de Ninive font aussi preuve dans la première lecture à l'écoute de la prédication du prophète Jonas. Ils crurent en Dieu, annoncèrent un jeûne et prirent des vêtements de deuil. Et Dieu, qui voit les cœurs contrits, renonce au châtiment dont il les avait menacés parce qu'ils s'étaient détournés de leur conduite mauvaise. Ils s'étaient convertis. Les habitants de Ninive ont agi sans attendre, car le temps est limité, comme nous le rappelle saint Paul dans la deuxième lecture. Que le Seigneur nous aide à reconnaître son chemin et à le suivre. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Amen.
Le père jésuite Martin Bahati continue à nous présenter la lettre encyclique Fratelli Tutti du pape François.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons la lecture du premier chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Rappelons que ce chapitre est intitulé « Les ombres d'un monde fermé ». Nous continuons à lire le premier petit point qui parle des rêves qui se brisent en morceaux. Plus loin dans ce petit point, le pape parle de la fin de la conscience historique. Il montre qu'actuellement, on observe la pénétration culturelle d'une sorte de déconstructionnisme où la liberté humaine prétend tout construire à partir de zéro. Elle ne se laisse subsister que la nécessité de consommer sans limite et l'exacerbation de nombreuses formes d'individualisme dénuées de contenu. Le pape évoque un conseil donné aux jeunes. Si quelqu'un vous fait une proposition et vous dit d'ignorer l'histoire, de ne pas reconnaître l'expérience des aînés, de mépriser le passé et de regarder seulement vers l'avenir qu'il vous propose, n'est-ce pas une manière facile de vous piéger avec sa proposition afin que vous fassiez seulement ce qu'il vous dit? Cette personne vous veut vide, déraciné, méfiant de tout, pour que vous ne fassiez confiance qu'à ses promesses et que vous vous soumettiez à ses projets. C'est ainsi que fonctionnent les idéologies de toutes les couleurs qui détruisent ou déconstruisent tout ce qui est différent et qui, de cette manière, peuvent régner sans opposition. Pour cela, elles ont besoin de jeunes qui méprisent l'histoire, qui rejettent la richesse spirituelle et humaine et qui a été transmise au cours des générations, qui ignorent tout ce qui les a précédés. Le pape qualifie ces manières de penser de nouvelles formes de colonisation culturelle. N'oublions pas, affirme le pape, que le peuple qui aliène leurs traditions et qui, par une manière imitative, par violence sous forme de pression, par une négligence impardonnable ou apathie, tolère, colère, arrache leur âme, perdent avec leur identité spirituelle, leur consistance morale et enfin leur indépendance idéologique, économique et politique. Un moyen efficace de liquéfier la conscience historique, la pensée critique, la lutte pour la justice ainsi que les voies d'intégration consiste à vider de sens ou à instrumentaliser les mots importants. Que signifient aujourd'hui des termes comme démocratie, liberté, justice, unité? Ils ont été dénaturés et déformés pour être utilisés comme des instruments de domination, comme des titres privés de contenu pouvant servir à justifier n'importe quelle action.
Invité du jour.
Notre invité du jour est le père Jean-Paul Savy, jésuite d'origine du Togo, qui nous parle aujourd'hui. Dans cette deuxième partie de l'entretien, il continue de nous présenter le livre qu'il venait de publier à l'édition L'Harmattan, ouvrage intitulé « Échecs politiques et échecs missionnaires, les missionnaires catholiques allemands au Togoland, de 1892 à 1921 ». Suivez.
colonisation et christianisation se sont retrouvés à la même époque sur le continent. Dans d'autres lieux, notamment en Asie, cela ne s'est pas passé de la même manière.
Dans la plupart des pays africains, c'était peut-être le cas.
Justement.
Et ça a des conséquences pour l'évangélisation?
Oui, le fait que colonisation et christianisation...
On les a confondus donc?
Oui.
À un certain moment.
Oui, parce que le pauvre Togolais qui est là et qui voit le missionnaire et le colon...
se pose des questions.
Oui, parce que ce sont des gens qui viennent du même pays. C'est vrai que ce qui va les différencier va être leurs objectifs. Bien que les deux viennent du même pays et qu'on les voit d'ailleurs des fois ensemble, il faut dire que le missionnaire a des attitudes bien différentes du colonisateur, puisque leur manière...
Donc on ne peut pas les accuser quand même de complicité ou bien un peu?
C'est un peu difficile. Des fois, on les accuse qu'ils soient...
Voilà, on n'entre pas beaucoup. Le lecteur va découvrir dans votre livre.
Oui.
Vous parlez aussi, c'est à la page 179, que dans leur méthode d'évangélisation, les missionnaires de la Société du Verbe Divin ont évité de s'installer dans les localités déjà occupées par les protestants et les musulmans afin d'éviter les conflits.
Oui, c'est un règlement ou une manière de faire qui est venue aussi du gouvernement. Parce que avant que les missionnaires ne quittent l'Allemagne pour le Togo, ils ont fait un tour où il a été question de cela aussi, de ne pas s'installer dans les milieux déjà occupés par les protestants. Je pense que cela vient de l'histoire de l'Allemagne même qui a eu à souffrir de cet
antagonisme entre
les conflits de religion, etc.
Vous dites aussi, ou vous écrivez plutôt à la page 181, que l'histoire de l'évangélisation du Togo est atypique. Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est toute la question d'une mission qui a commencé avec enthousiasme, etc., et qui va connaître une rupture. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale sera un événement assez dramatique qui va casser le rythme de cette évangélisation. Les missionnaires allemands sont renvoyés, sont expulsés. Au moins, ils ont eu la présence d'esprit, même s'ils n'avaient jamais pensé quitter le Togo, de former des catéchistes. Et cela va être ce qui va aider beaucoup à soutenir la foi.
Donc pour la continuité aussi.
Oui. Quand les Allemands sont partis, les catéchistes vont avoir un rôle assez important dans les communautés chrétiennes où il n'y a plus de prêtres. Ce sont les catéchistes qui vont prendre en charge ces communautés chrétiennes et qui vont aider donc ces chrétiens-là à garder leur foi. C'est dans ce sens-là que cette histoire est atypique.
Oui. Maintenant, le dernier point peut-être avant de conclure, c'est ce que vous écrivez à la page 182, que l'impact de la religion chrétienne sur la société traditionnelle est aussi un élément à relever.
Le christianisme arrive dans un milieu de religion traditionnelle. Et donc, pour faire des chrétiens, il faut...
Parfois abandonner la tradition,
oui.
La religion traditionnelle. Le vaudou aussi, il y a le vaudou chez vous, non?
Oui, il y a le vaudou. La question ici, c'est que souvent la tradition et la religion sont un peu mélangées. De sorte que le Togolais doit se défaire de sa religion pour
embrasser
la religion chrétienne. Et donc cela va avoir comme d'autres conséquences dans la société, dans les familles par exemple. L'enfant qui veut devenir chrétien, papa qui voit comment est-ce que la tradition que moi j'ai reçue de mes pères va pouvoir continuer si lui devient chrétien. Donc s'il devient chrétien, ça veut dire qu'il abandonne la religion traditionnelle. Et on voyait déjà aussi que, abandonnant cela, ça veut dire que l'enfant abandonne toute la tradition. Si la tradition se perd, comment la société peut survivre. J'ai pas parlé de tout cela dans le livre, mais ce sont des sujets à aborder
prochainement. Donc, dans ce sens, vous pouvez recommander vous-même, comme auteur, vos lecteurs, quelque chose qu'ils vont découvrir en plus de ce que nous venons un peu de dire sommairement.
Moi, j'encourage beaucoup la lecture de ce livre qui est très simple et je crois qu'il se lit très facilement. Ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont les événements politiques sont liés aux événements religieux ou à l'évangélisation du Togo. Et cela ouvre beaucoup l'esprit sur cette histoire et la manière dont les choses se sont passées. Le chrétien qui lit ou le Togolais qui lit cette histoire, je crois qu'il trouvera goût et connaîtra mieux l'histoire de son pays et l'histoire de l'Église catholique. J'encourage beaucoup cela parce que ça aide à mieux s'approprier de sa religion.
Et de sa propre culture aussi.
Voilà.
Le père jésuite Jean-Paul Savy, d'origine togolaise, il répondait aux questions de Jean-Pierre Bojoko.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Nous sommes à la fin de notre programme. Merci de l'avoir suivi en compagnie des Donatien Nyembo. Le rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence, même radio.
Kisukeronga bubunde, mufu na zole, mula yangwa kana.